merci pour l'invitation. Je connais plusieurs d'entre vous et d'autres que je rencontre aujourd'hui. Sur un parti personnel, en gros, je vais essayer de vous présenter ce qu'on fait. Mais je suis venu en France en suivant un projet interdisciplinaire et en étant un jeune économiste qui voulait s'intéresser à la finance, à la comptabilité, dans des contextes que je ne pouvais pas comprendre à l'époque, mais en tout cas, apparemment, ça posait problème, les questions que je me posais. Et en même temps, j'étais assez têtu pour croire que c'était les bonnes questions. Donc, j'ai changé de discipline, de pays, et enfin, j'ai atterri au CNRS. C'est plutôt bien passé, sauf qu'entre-temps, vous changez de régime académique, et donc, ça vous complique de nouveau la vie de tout le monde. Par contre, je connaissais bien la finance depuis les années 90 et je partageais des réseaux à l'époque importants, d'économistes d'ailleurs, qui s'est préoccupé déjà des dérives et des prises de risques et de ce qui s'est passé aussi bien au niveau international que local, régional, sur les différentes devises, entre les devises. Donc après, disons, personne ne peut s'étonner de ce qui s'est passé par la suite, malgré les arguments qui se diffusent dans les médias. Donc ça, c'est un clivage très important dans tout un domaine. Ça vaut pour d'autres domaines économiques, d'autres types de régulations, mais ça vaut pour la finance, on se coupe aujourd'hui. Il y a un véritable décalage entre ce qui se passe au niveau des experts et des gens qui accèdent, disons, au débat qui se passe dans des portes, derrière des portes closes, et la conscience qu'ils ont des situations, des enjeux, les positions qu'ils prennent et les actions qu'ils mènent. Et les débats, le monde intermédiaire, qui est le monde des médias, mais aussi le monde de la recherche académique, le monde d'un savoir qui devrait, en principe, faire la médiation. On peut y mettre le monde politique, si vous voulez, parce qu'en France, on les comprend de cette manière. Dans d'autres pays, un peu différemment, mais disons-y, ça fait la sphère politique, qui inclut les débats publics. Et après, disons, les gens communs, les peuples, si on reste sur un registre politique, les citoyens, les communautés locales et les gens, disons, qui font partie de la société, donc le niveau social qui est affecté par tout ça, mais il n'y en a pas les contrôles, par définition presque. Et c'est donc dans ces contextes que j'essayais de situer mon action économique. Donc je voulais être chercheur, au début c'était des questions théoriques qui m'ont amené à étudier la comptabilité, et la finance en était un peu la conséquence, mais j'étais formé aux techniques quantitatives, parce que tout bon économiste à l'époque devait essayer. Et donc j'avais, disons, d'une part une expertise en économie mathématique et de l'autre un intérêt pour la compta théorique et un champ d'application qui était les finances publiques à l'époque, mais la finance en général. Mais je me posais des questions et donc apparemment ce n'était pas possible de se les poser dans les contextes où j'étais. J'essayais de les poser en France. Donc en arrivant en France, j'ai fait une thèse, une seconde thèse, qui était consacré à la théorie de l'entreprise, au rôle des systèmes comptables dans l'entreprise, et donc des questions de gouvernance d'entreprise, mais aussi des modèles comptables. Il y avait l'introduction de nouvelles normes internationales en Europe et dans le monde, et la question du nouveau modèle comptable de la gestion de l'air qui s'est posée. Donc c'était, disons, l'objet qu'il m'avait donné. Et c'est là un peu que j'ai jeté les bases des projets, c'est-à-dire commencer à me positionner différemment avec un projet de recherche personnelle, mais aussi l'idée d'entamer un réseau, disons, de construire un débat autour de ça et de ne pas me ficher à ma discipline, mais plutôt en suivant ma question de recherche. Donc ça apparaît assez naturellement, donc je reviens à mon terme, ça c'était juste une petite introduction pour vous dire d'où je viens. La première question était de partir des objets et pas des disciplines. Donc ce n'était pas un savoir, chacun un porteur, je me définis en tant que chercheur, c'est ma profession, c'est mon rôle. Donc évidemment chacun un porteur d'une expertise qui fait partie de son éducation, de ce qu'il fait, de ce qu'il étudie, qu'il apprend, qu'il continue d'apprendre. Mais ce n'est pas ça qui caractérise sa recherche, c'est l'objet, c'est de répondre à l'objet. L'expertise, c'est une manière d'aborder l'objet. Et du moment qu'il sent les limites de sa connaissance, il devrait au moins l'avouer, voire aller chercher ailleurs. S'il sent que pour répondre à ses questions et à ses dialogues avec l'objet, il en a besoin. Donc c'est partir de l'objet était assez fondamental. Mon problème, dès le début, je n'étais pas formé à la comptabilité, donc. C'était ça, j'avais un objet, et après j'ai compris que c'était quand même une bonne attitude, une bonne intuition. J'avais un objet, je voulais les comprendre, je partais dans tous les sens. Je parlais avec tout le monde, je lisais le plus possible. Ce qui est de plus en plus interdit par nos doctorants, parce que ce n'est vraiment pas la manière de faire une bonne thèse en 3 ans, avec des publications déjà avant d'avoir terminé, et surtout acceptées dans certaines revues et dans certains contextes, pour qu'après on ait les qualifications, les rankings et compagnie. Je dis, si vous partez là-dedans, ça m'a pris 10 ans pour arriver à penser mon projet de recherche et mon objet de recherche dignement. Au début, j'étais incapable de l'écrire. Mais par contre, ça intéressait. J'ai posé de bonnes questions, je savais en discuter. Mais je n'étais pas prêt. Ça a pris des années avant d'y arriver. Et ça questionnait beaucoup de gens. Mais j'avais des gens qui m'appuyaient. Donc à partir de l'objet, c'était quand même un point. Disons, il manquait des forats, des contextes pour en discuter proprement. Ça, c'était un constat, mais que j'ai partagé avec plein de gens avec lesquels j'allais discuter. C'était du moment que vous partez de l'objet, vous acceptez un dialogue entre les disciplines, entre les expertises, vous vous retrouvez en gros seul. C'est-à-dire, il n'y a pas de contexte. Vous allez proposer ça aux sociologues, ils vous disent que c'est de l'économie ou du droit. Vous allez proposer ça aux juristes, ils vous disent, ben nous, on fait du droit. On parle avec tout le monde, mais après, pas question de se mêler. Et c'est toujours vrai un peu partout, surtout en Europe plus qu'ailleurs. Et si vous en parlez aux économistes, ben, tous les clivages dont on a discuté, on sait bien, c'est une discipline très cloisonnée, il y a des tensions dans la discipline et ça ne va pas bien. Disons, pendant un siècle, on s'est fâché, on participait au même colloque, mais nous, on n'arrive même plus à se fâcher, on ne se rencontre même plus. Donc, parce que bon, quand même, la discipline était formée par des grands débats entre des économistes qui pouvaient parler, même publier dans les mêmes revues, n'étant pas d'accord, ou dans des revues qu'en tout cas tout le monde lisait. Quand Keynes, Schumpeter et Hayek discutaient des finances, au moins ils se lisaient entre eux. C'était quand même déjà un pas en avant, malgré que les clivages étaient déjà là. Donc ça, c'était le deuxième constat. Le troisième, c'est l'approche, c'est-à-dire, je crois, l'idée que ces techniques dont on discute, et ça, c'est revenu beaucoup dans la première table ronde, sont essentielles. C'est-à-dire, c'est une partie essentielle et méconnue de ces pratiques financières, mais aussi de ces régimes financiers. Parce que je les mets aussi bien au niveau micro qu'au niveau macro. Et cette dimension technique, qui après devient aussi, dans mon point de vue, une question des normes et des règles, donc après je m'occupe de ces aspects institutionnels, mais on peut parler de ces pratiques et de ces techniques au niveau des organisations, ça y a un rôle aussi bien micro, donc au niveau des pratiques, au niveau disons, des organisations ou des banquiers, et de l'impact dans leur stratégie, etc., qu'au niveau macro, au moment qu'on pense les rôles, disons l'organisation même, l'architecture de ça, et au moment que cela après se met en place. Il y a donc cette dimension verticale, je l'appelle, entre les micro et les macro, où ces techniques jouent un rôle vraiment très important, voire critique, et elles sont vraiment méconnues, c'est le domaine de certains experts. Je suis sûr que les acteurs les maîtrisent, mais après c'est un débat très biaisé, très figé, par des positionnements, par des intérêts, par plusieurs cloisonnements dont on a déjà commencé à parler, d'ailleurs on a parlé ouvertement. Et donc, ça, c'est difficile de poser ces questions. Donc, avec ces 3 éléments, j'ai commencé à développer ma thèse. D'abord, j'ai travaillé sur la gouvernance d'entreprise, donc au niveau de l'entreprise et de la gouvernance d'entreprise, les modèles comptables. Et ensuite, du fait du LABEX REFI, dont je suis membre avec Eric, sur la régulation financière. Donc, plus récemment, disons, je me suis occupé plus. Mais dans les deux cas, c'est toujours de la comptabilité et de la finance, mais ça change évidemment. Des types de questions et des terrains, disons. Mais ce dont je voulais parler, je vais conclure sur ça, donc ça c'est l'encadrement épistémologique, c'est qu'on a essayé de se donner les moyens aussi concrets pour maintenir ça et pour, disons, constituer ça autour d'un réseau. Donc, suite à ma thèse, j'avais déjà ces réseaux en place. On a lancé au début quelques conférences que certaines associations nous ont permis d'organiser. Il y aura en été une, SAS, l'EIPE, et après, par contre, on a décidé de constituer notre propre réseau et on s'appuie sur l'organisation SAS pour sa conférence annuelle. Et on a commencé à en parler en 2005, mais on l'a constitué en 2009 et a commencé à publier en 2011 la revue interdisciplinaire qu'on appelle Convivium. Convivium, c'est un mot de la Renaissance, c'est Dante Alighieri qui a donné ces titres en traité où c'était en gros un banquet où les grands esprits se rencontraient pour discuter des grandes questions. Et chacun amenait justement son expertise, mais après c'était quand même convivial et c'était l'objet d'une discussion ouverte. Et lui, il imaginait de s'asseoir juste au-dessous de la table parce qu'il ne se croyait pas digne d'être à la table, mais au moins il écoutait, il récupérait les miettes de ce qu'on disait, on essayait d'en faire quelque chose. Et c'est dans cet esprit qu'on s'est dit, on constitue un réseau, on essaie d'avoir les juristes, parce que la dimension de la régulation, des normes, des règles nous semblait essentielle, mais aussi les comptables ou les financiers, c'était surtout des comptables, du fait de mes recherches, mais aussi du fait de leur sensibilité à ces questions institutionnelles. Et évidemment, ouvert à tous ceux qui font des études sociales en économie et en finance. Donc après, certains sont déjà dans les membres du board et on a essayé voilà, de convier. L'esprit était d'en faire un lieu de rencontre qui a ouvert au niveau méthodologique. Donc la tolérance méthodologique était fondamentale. On ne voulait pas retomber dans les clivages ou créer l'énième groupe qui s'oppose aux autres. Et on essaie de les faire en conviant les bonnes personnes. C'est vraiment un travail très pratique après de trouver les bonnes personnes, même dans chaque discipline. Les néoclassiques ne sont pas tous égaux. Et les hétérodoxes ne sont pas tous égaux non plus. Donc il faut à chaque fois identifier les bons partenaires, les bons sujets, la bonne provocation. Donc tolérance méthodologique, variété géographique. On s'est rendu compte que les études internationales en finance, mais c'est vrai en éco, sont en vérité, ils ont l'apanage d'un certain petit monde qui s'est dit international, mais qui en vérité n'est qu'un sous-réseau. Et donc en vérité, ce n'est pas un vrai débat international. C'est juste qu'il y en a qui contrôlent les niveaux internationaux des débats. C'est tout un autre discours. Et voilà, je vois bien que vous reconnaissez ce dont tu vas, donc je ne vais pas plus loin. Vous avez compris. Et donc, on a essayé d'aller au-delà de ça, en essayant de têtes de pont dans chaque contexte culturel, dans chaque communauté, pour nous aider, évidemment. Les Français n'ont pas été assez actifs, je l'ai dit. Donc vous êtes bienvenus, on vous encourage depuis longtemps. Donc venez participer. Certains, évidemment, m'aident beaucoup. Olivier Weinstein est mon partenaire dans ces projets. Jacques a publié avec nous à plusieurs reprises. On a fait des bons projets. Voilà. Donc, ça, c'est. Donc, j'ai amené des copies que vous pouvez avoir. Là, on les fera. On fait circuler, après vous pouvez les prendre, ça me fait plaisir. La revue en tout cas est aussi disponible en ligne. Je vais conclure sur la comptabilité. Donc les numéros que je vous apporte, c'est justement sur la question de la gouvernance des normes comptables. Il y en a un plus récent, mais je n'avais pas les copies à ma disposition, donc où Jacques a publié. Mais là, on voit un peu aller au-delà. La comptabilité, c'est complexe. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on essaie d'aller au-delà de ça. Ça devient plus simple si on essaie de la regarder avec un point de vue différent. Donc, par exemple, là, on s'occupe du changement du régime que chaque pays s'interroge ou s'impose ou s'est adopté dans différents contextes. Il y a un collègue, à l'époque, qui était à Harvard, maintenant à Oxford, qui a fait une analyse, disons, entre les sciences politiques et la comptabilité sur les différents modèles que les pays ont à l'esprit, et une classification, justement. Et de ces points de vue, ça porte un éclairage qui, à mon avis, simplifie et ouvre des perspectives. Ça montre qu'en gros, la complexité de l'adoption des normes comptables, ça fait ses pensées. Et on a fait ça avec Jacques sur les modèles comptables. Si on essaie d'avoir un regard critique, mais aussi, disons, rigoureux sur les modèles comptables, ben, on peut arriver à faire des classifications intéressantes sur ce qui porte les nouvelles normes, ce qui portait les anciennes. L'approche comparée est assez importante. Et on voit là aussi qu'il y a l'opposition entre la juste valeur, les nouveaux modèles et ce qu'on pouvait appeler les coûts historiques qui étaient l'ancien. C'est une simplification, mais ça commence à éclairer aussi les jeux d'intérêt et les conséquences de ces changements. Et ça vaut un peu en général pour la finance. Donc, je voudrais conclure en disant, faites attention à croire aux arguments de tous ces débats médiatiques ou politiques. Il a quand même porté et stratégiquement par certains acteurs avec un certain discours. Les analyses comparées vous disent toujours qu'une autre manière est toujours possible. Après, il faut décider quelle est la bonne. Ça, c'est un autre niveau. Mais on sait que plusieurs mondes sont possibles parce que certains mondes ont déjà existé ou peuvent exister. Qu'ils soient imaginaires ou qu'ils soient actés par l'histoire, déjà en comparant l'ancien modèle de gestion financière française au nouveau, vous aurez des très bons éléments d'analyse de ce qui devait faire un banquier central et de ce qui est en train de faire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous envoie à écouter.